France Musique.
Le pays des orgues. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette série estivale et matinale, Le Pays des Orgues, tous les dimanches jusqu'au 23 août de 8h à 9h sur France Musique. L'Alsace, mais c'est le pays des orgues, c'est ce que se serait écrié le grand facteur d'orgue Aristide Cavaillé-Coll en traversant la région alors qu'il se rendait en 1844 de Paris vers Francfort pour aller rendre visite à son confrère et ami Walker. Une randonnée musicale en Alsace du Sud, dans le territoire de Belfort, dans les cantons de Berne et du Jura suisse, c'est ce que je vous propose de vivre avec notre équipe, Jean-Claude, Michel et Valentin, avec des organistes, Élise, Antonio, Jean-Charles, Olivier, Jean-Baptiste et Gabriel, et en lien avec les régions traversées. Des régions, vous le savez, durement éprouvées, côté français, par l'épidémie de Covid-19. Mais des régions qui ont tenu bon grâce à l'admirable dévouement des soignants, de toutes celles et ceux qui étaient en première ligne, grâce à la solidarité entre régions, et l'idée d'inclure nos amis suisses était aussi une manière de les remercier chaleureusement, tout comme nos amis allemands d'ailleurs, pour leur initiative d'avoir pris de nombreux patients dans leurs hôpitaux quand les services de réanimation étaient sous une énorme pression. Et puis au pays des orgues, nous voulons aussi apporter un message d'espoir, montrer que ces territoires savent avancer, penser à leur avenir, à leurs atouts importants. La culture a bien sûr un rôle majeur à jouer partout où la souffrance et le deuil ont laissé des traces. Nous en parlerons dans quelques instants avec Brigitte Klinkert, mais tout d'abord, place à la musique.
Thank you.
histoire de camper le paysage au tout début de notre randonnée musicale Le Pays des Orgues sur France Musique, c'était Soir d'Alsace, opus 52, un extrait de Charles-Marie Vidor par le trio Parnassus. Avec nous maintenant Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin depuis septembre 2017. Vous êtes la première femme élue à ce poste, tout comme vous fûtes à 37 ans, la seule femme élue de ce conseil général au début des années 1990. Deux pics de décès se sont suivis en Alsace, le 25 mars dans le Haut-Rhin avec 52 décès, le 3 avril dans le Bas-Rhin avec 28 décès, un pic d'hospitalisation. Le Haut-Rhin, votre département, Brigitte Klinkert, a été clairement un des épicentres de l'épidémie et a subi une importante surmortalité. Comment avez-vous vécu cette période où on vous a vu sur tous les fronts ?
Alors c'est vrai que nous sortons là d'une période qui a été véritablement un cauchemar pour l'Alsace et plus particulièrement pour le Haut-Rhin, puisque dans notre département, nous comptons plus de 1500 décès, ce qui veut dire que deux Haut-Rhinois sur 1000 sont décédés. C'est juste énorme. Vous imaginez bien que la population sort là d'un traumatisme qu'on n'a jamais connu, ces dernières décennies. Nous essayons bien sûr d'en retirer le positif. Et le positif, c'est la chaîne de solidarité extraordinaire qui s'est mise en place ici dans le Haut-Rhin et en Alsace entre les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les forces de sécurité, les services sanitaires et tout simplement les citoyens. Une chaîne de solidarité formidable ici en Alsace et aussi l'aide de nos voisins et amis allemands et suisses, eh bien sans qui la situation aurait été encore beaucoup plus catastrophique. Puisque même si les frontières étaient fermées, et j'en suis triste pendant cette période, eh bien des malades du Covid alsacien qui étaient dans le coma et qui avaient besoin de soins en réanimation ont été transférés dans des lits de réanimation du Bade-Wurtemberg et ensuite de toute l'Allemagne et des cantons suisses voisins. Et là, on peut vraiment dire que la coopération transfrontalière a sauvé des vies.
Brigitte Klinkert, pour un département pour qui la transfrontalité n'est pas un vain mot, se retrouver isolé pendant quelques semaines, même pendant quelques semaines, alors que les accords de Schengen avaient quand même permis de rendre les contrôles aléatoires mais pas systématiques, comment est-ce que les Alsaciens ont vécu cette période où tout d'un coup le voisin proche était devenu très lointain ?
Eh bien, nous l'avons vécu de manière difficile. Moi, européenne convaincue, j'en avais les larmes aux yeux. Surtout que cette fermeture de frontières s'est faite d'une heure à l'autre ou quasiment sans aucune communication ni information de la part de nos voisins. Alors, je pense qu'ils ont été pris de panique et ça peut se comprendre parce que c'est vrai que le foyer épidémique qui a démarré à Mulhouse de manière très forte pouvait faire peur. Mais la frontière avec l'Allemagne s'est fermée, avec la Suisse aussi. Ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup d'Alsaciens qui tous les jours traversent cette frontière pour aller travailler et nos travailleurs frontaliers et qui, quelquefois, ont eu des détours à faire d'une heure à une heure et demie parce que des points de passage étaient même physiquement fermés, barrés. Et puis, il faut le dire aussi, parce que ces travailleurs frontaliers, quelquefois en Allemagne, se voyaient interdits d'aller dans les magasins, même à midi, pour s'acheter un sandwich. Donc ça a été vraiment un traumatisme et je pense que ça va nous marquer et ça va nous marquer pour un certain temps. Je suis un petit peu triste pour l'Europe, mais je le redis, je retiens le positif et c'est ça qu'il faut retenir. La coopération transfrontalière a sauvé des vies.
On a vécu aussi une lente décrue des hospitalisations, mais tellement lente. J'imagine que les autorités étaient quand même avides de ce que ça se passe le plus vite possible et ouais. Il fallait attendre et être tout simplement patient.
J'avoue que j'ai fait toutes les démarches possibles, aussi bien à Paris qu'à Berlin et auprès de nos voisins du Bade-Wurtemberg, pour un, rouvrir les frontières beaucoup plus vite, et deux, pour qu'on repasse sur la carte de France en zone verte, parce que malheureusement, le rouge, eh bien, marque les esprits. et on le ressent dans le tourisme, puisque aujourd'hui les touristes tardent à revenir.
François Couperin, dialogue sur les grands jeux, deuxième couplet de l'Agnus, extrait de la messe à l'usage ordinaire des paroisses de 1690. Avec nous Olivier Virvaz, professeur d'orgue au Conservatoire à rayonnement départemental de Mulhouse et professeur d'improvisation au département de musique ancienne du pôle supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt. Bonjour Olivier.
Bonjour Benjamin.
Et merci de nous accueillir à cette tribune de l'orgue Caliné de Sainte-Croix en Plaine. Un orgue qui vous tient à cœur, je crois.
Un orgue qui me tient à cœur et que je considère un peu comme emblématique en Alsace, car particulièrement bien conservé pour les Calinés. Et puis aujourd'hui, c'est une restauration également exemplaire qu'il y a eu là il y a quelques années.
Alors on va le dire, pour cet instrument, on ressent encore très fort l'orgue classique français et vous avez choisi de démarrer votre programme avec François Couperin.
Effectivement, la structure de l'instrument, même le rythme du buffet avec ses quatre tourelles, et ces tourelles du positif ressemblent déjà, même visuellement, à l'orgue classique français. Mécaniquement, l'apparence de la console ressemble effectivement à un orgue classique français. Et bien entendu, d'autres possibilités sont offertes avec les ajouts qu'ont fait les Calinés par rapport à un orgue du 18e. Mais d'un autre côté, les étiquettes ne sont par exemple plus manuscrites, mais elles sont déjà imprimées. Les claviers ne ressemblent plus forcément à des claviers de clavecin, mais commencent à ressembler à des claviers de pianoforte. Et cela fait quand même déjà quelques différences, en tout cas dans l'ambiance à la console.
Et la décoration au niveau des tourelles, avec ces têtes sculptées, le baroque est encore rêvé, peut-être plus que rêvé, mais encore bien là néanmoins.
Le baroque est effectivement encore bien présent, et d'ailleurs dans cette nef qui a été construite pas très longtemps avant l'instrument, on peut considérer aussi que dans ce début de 19e, beaucoup de nefs dans les campagnes alsaciennes étaient en fait des nefs construites dans une mode néo-baroque. Et donc du coup l'instrument épouse parfaitement ce style également. Thank you.
plein chant de l'anus en basse et en taille, extrait de la messe à l'usage ordinaire des paroisses de François Couperin. François Couperin nous amène à Saint-Gervais, nous amène à la facture parisienne. Est-ce qu'il a pleinement sa place ici, sur cet orgue, selon vous ?
En tout cas, oui, les registres français qui sont sur cet instrument permettent idéalement d'interpréter cette musique.
Vous nous donnez quelques exemples, éventuellement, de noms de jeux qui, pour vous, sont des jeux de l'orgue classique français ?
On a bien sûr le plein jeu. Le chromorne. Et d'autres encore.
Olivier Virvaz, donnez-nous peut-être encore quelques exemples de mélanges qui vous séduisent particulièrement et qu'on va entendre, bien entendu, tout au long de votre programme aujourd'hui.
Un des mélanges typiques de l'orgue est le fond d'orgue, où donc on mélange une partie des fonds. En plus des anges que vous entendrez également dans les pièces qui sont jouées, il y a les gambes, en fait les registres qui tendent à imiter les instruments à arche et qui sont particuliers à ce genre de facture.
Il faut parler aussi et qui intervient dans une des pièces que vous allez jouer, c'est le fameux tremblant.
Oui.
Et il semblerait qu'il y ait dans cet instrument quelque chose qu'il n'y aurait nulle part ailleurs. Ai-je bien compris, Olivier Virvaz ?
Nulle part ailleurs, je ne sais pas, je n'ai pas encore joué tous les orgues.
Ceux que vous connaissez tout au moins.
Dans ceux que je connaissais tout au moins, effectivement, un tremblant un peu spécial car il agit vraiment avec le vent. C'est-à-dire que plus on utilise de vent, en jouant de plus en plus de notes, plus le tremblant se met à trembler. Et moins on en joue, moins le tremblant tremble, ce qui fait quelque chose de très naturel en fait et de très charnel aussi.
Vous me faites entendre ? Un tremblant économe.
Absolument.
Thank you. À ce stade de notre émission, il va être intéressant de faire un point sur cette famille de facteurs d'orgue, les Kalinés, qui ont construit une centaine d'orgues au XIXe siècle en Alsace et ailleurs. Ils ont été un peu oubliés au XXe siècle, le goût du public avait changé. Et c'est Christian Lutz, technicien conseil pour les monuments historiques, qui va éclairer ce domaine passionnant dont il est un éminent spécialiste. Bonjour Christian Lutz.
Oui, il s'agit effectivement d'une dynastie très importante de facteurs d'orgue qui sont devenus alsaciens par les hasards de l'histoire, puisqu'au départ, le fondateur de la dynastie, François Kalinés, était né à Ladoix, près de Beaune, donc il était un bourguignon. Et en fait, c'est simplement parce qu'au moment de la Révolution, il n'avait plus du tout de travail à Dijon, qu'il est allé rejoindre son beau-père à Rouffach, son beau-père qui était Joseph Rabini. Et donc, après la Révolution, il est resté en Alsace. C'est là qu'il a formé ses deux fils, Joseph l'aîné et Claude Ignace le cadet. Et ce sont surtout ces deux fils qui, à partir de 1820, ont fait rayonner la maison des frères Kalinés. Même s'ils n'ont pas toujours été associés, c'était quand même un atelier très important qui, dans ses meilleurs jours, a compté une quarantaine de compagnons, une quarantaine d'ouvriers.
Comment situer les Kalinés et leurs instruments dans l'histoire de la facture d'orgue, Christian Lutz ?
Il y a une forme de continuité, et puis bon, ce que j'ai peut-être omis de dire, c'est que François Kalinés, entre sa naissance en Bourgogne et son arrivée en Alsace, a passé une quinzaine d'années à Paris. Il a été formé par un facteur d'orgue parisien, Adrien Lépine, le beau-frère de Clicquot. Il est un héritier, en fait, de la facture d'orgue parisienne. Et d'ailleurs, sur son papier à lettres, François Kalinés disait toujours « facteur d'orgue de Paris, installé à Rouffach ». Bon, évidemment, c'est un argument commercial, mais il y a quand même effectivement une certaine continuité avec la facture parisienne de la fin du XVIIIe siècle, même si en fait il essaye d'adapter en fait cette facture à ses clients ruraux de l'Alsace, où il fallait que les prix de revient soient plus bas. Et donc il va essayer de rogner sur les matériaux, là où Clicquot, les facteurs parisiens, utilisaient du chêne, il va utiliser plus du sapin, qui revient moins cher. Les buffets sont relativement plus simples, il y a moins de sculptures. Il y a quand même une volonté de rendre les choses plus accessibles à des paroisses modestes.
Alexandre-Pierre-François Boëli, récit de flûte, un poco lento, opus 12, numéro 19, quatuor sur deux claviers et pédales obligés, andante con moto, opus 12, numéro 10.
Le pays des orgues, Benjamin François, c'est l'été sur France Musique.
Jean-Christian Guerrier, c'est vous qui avez fait la restauration de l'orgue Caliné de Sainte-Croix-en-Plaine. Oui. Est-ce que ça a été une restauration facile ?
Oui et non, dans le sens où il y avait beaucoup d'éléments qui restaient encore de l'ancien instrument, puisqu'elle a été peu transformée. Donc on pourrait dire oui, puisque l'essentiel était là, et non, parce que finalement il fallait intégrer cette partie restante, ou ces parties neuves, dans ces concepts généraux, et finalement il fallait redécouvrir cet instrument qui est quand même à mon avis unique. Et donc c'était une restauration plutôt difficile.
Est-ce que c'est comme pour la restauration d'une œuvre picturale par exemple, où les couches de vernis souvent altèrent la perception qu'on a de l'œuvre? Est-ce que là il y a eu des couches qu'il a fallu enlever?
Forcément, alors il y a eu l'usure naturelle évidemment, parce que l'orgue a souffert, il y a eu des transformations un peu malheureuses qui ont été faites fin 19e, donc ça c'est une couche de vernis. Donc celle-là on peut relativement facilement la quantifier. Ensuite il y a une usure naturelle parce qu'il y a eu des parties moins étanches, les sommets sont devenus moins étanches, donc la pression du vent a baissé, donc forcément le rendu sonore a été différent. Bien qu'on s'est assez rapidement rendu compte que l'instrument devait être très bien et très beau, et finalement c'est ce qu'il en ressort à la fin. Donc oui, des couches de vernis, mais pas trop compliquées à dégager. Voilà.
Et la chance que vous aviez aussi, que la console que j'ai pu visiter tout à l'heure, elle est assez dans son jus finalement.
Oui, tout à fait. Ça inspire quand même beaucoup d'avoir ces éléments de base, les sommiers bien sûr, le buffet, mais la console, et ça c'est quand même assez unique, surtout que l'instrument n'a jamais été démonté. Donc c'est le choix qu'on a fait aussi lors de la restauration, puisque le technicien conseil avait proposé de démonter buffet, c'est plus facile de travailler à la maison, forcément. Mais on a fait le choix, en accord avec lui, évidemment, de laisser tout ici, voir les sommiers, parce que justement, pour éviter de démonter des pièces qui n'ont jamais été démontées depuis la construction. Donc on a vraiment souhaité, ensemble, de le garder comme il était dès le début, depuis Caliné. Voilà.
Il y a encore quelques orgues Caliné en Alsace qui sont dans leur état d'origine. Je pense à ceux qui sont au fin fond des vallées, comme la vallée de la Ture, à Molo, par exemple. Quand on est facteur d'orgue pour une telle restauration à Sainte-Croix-en-Plaine, on s'inspire des instruments dont on sait qu'ils n'ont pas été touchés du tout depuis leur construction.
Alors je dirais oui et non. Oui, parce que forcément, ça fait partie de notre culture générale. Donc forcément, dès qu'on est facteur d'orgue alsacien, on baigne là-dedans. Non, parce que je crois que c'est un instrument... c'est l'avis qu'on a, ou la perception qu'on a, c'est de toujours chercher l'aspect unique de chaque projet. Et cet instrument est, à mon avis, unique. On voit aussi, on a vu sur pas mal de détails, sur la tuyauterie, par exemple, qu'il a fait très peu de tuyaux identiques à ici. Donc il y a Egisheim, où la tuyauterie est assez similaire à ici, mais Molo, on l'a visité, forcément, parce que pour le chromant du positif d'eau, les tuyaux sont pas de la même facture qu'ici. Donc il y a quand même des nuances qu'il faut apporter par rapport à l'aspect originel, par rapport à la construction. C'est quand même un instrument prestigieux, c'est le buffet le plus, genre avec les jouets, c'est unique pour Caliné. Les pots de feu au-dessus aussi, donc c'est quand même assez unique. Il a voulu donner une dimension autre qu'il n'a pas donnée sur les autres instruments, et on a l'impression au niveau sonore aussi. Voilà, c'est un instrument tout à fait unique, un projet unique.
Est-ce que Jean-Christian Guerrier, on peut dire maintenant que Caliné aura gagné ses lettres de noblesse avec une telle restauration, et qu'il va devenir peut-être dans 50 ans aussi célèbre que Jean-André Zilberman?
Alors ça, on verra dans 50 ans, moi peut-être pas, mais les jeunes écouteurs, je pense qu'il le mérite. Parce que je crois qu'il y a des choses assez fondamentales, puisqu'on a aussi restauré un instrument Silverman, donc on a pu finalement un après l'autre, donc on a pu voir un peu les différences. Alors c'est des facteurs d'ordre complètement différents. Paradoxalement, j'ai trouvé plus de travail systématique chez Silverman, parce qu'il y avait des choses plus répétitives. Alors que chez Caliné, en tout cas ici, on voit les pièces où la réflexion est unique. Voilà. Alors que, évidemment, il y a des éléments qui sont repris, c'est clair. On sent que c'est du Caliné. Mais il y a beaucoup de détails au niveau de la finition, au niveau de l'aménagement, au niveau de la tuyauterie, de l'harmonie aussi. Marine était très claire là-dessus. C'est unique. Donc, c'est un instrument unique. C'est pas un instrument standard d'une entreprise d'une certaine importance. Voilà. Donc, c'est pour ça, oui, j'espère qu'en tout cas, qu'on aura un peu contribué au rayonnement des Calinés. Voilà.
Thank you. Trio Andante HWV 386A de Georg Friedrich Händel par Olivier Virvas à l'orgue Caliné de Sainte-Croix en Plaine. Alors, vous nous faites découvrir des compositeurs, un certain Justin Heinrich Knecht. Qui est-il ?
Justin Heinrich Knecht n'était pas né très loin d'ici, outre-Rhin, aussi dans l'Alsace donc du Sud, et on peut considérer que c'est peut-être l'un des premiers grands pédagogues de l'école d'orgue en Allemagne, avec donc les deux méthodes d'orgue qui nous laissent à sa suite, suivront ensuite Rinck et de nombreuses autres méthodes dans tout le 19e siècle français. Et donc cette méthode, par son art de registrer, son art de doigter, son art d'utiliser les pédales, est particulièrement, je trouve, importante, en tout cas pour aussi l'utilisation de ce genre d'instrument.
L'œuvre s'intitule le Kleines Oboenkonzert, donc petit concert de hautbois, ce qui va nous permettre d'entendre les anches de ce magnifique instrument des Kalinés. Qu'est-ce que vous leur trouvez d'absolument magnifique à ces anches ?
Elles tendent vraiment à ressembler finalement à de vrais instruments et à les écouter. Je crois qu'il y a une vraie expérience charnelle. Il y a tout notre corps qui vibre en fait quand on les écoute et une éloquence, une présence dans la nef qui est vraiment saisissante.
Thank you. Kleines Oboenkonzert, Allegretto, petit concert de hautbois, de 1795, de Justin Heinrich Knecht. Alors, il y a aussi, dans les compositeurs auxquels vous avez pensé, tout de même, un compositeur qui est passé par l'Alsace, un certain Mozart, dont on sait qu'il a joué l'orgue Silbermann de l'église Saint-Thomas. La console, on peut toujours la voir, si on ne peut plus la jouer, tout le monde peut la regarder dans la nef de Saint-Thomas. Et vous nous jouez cette fantaisie für eine Orgelwalze pour un orgue mécanique, Köchel 608, dans une version peut-être un peu plus historique que d'habitude. Qu'est-ce qui change dans votre version, Olivier Virvaz? Qu'avez-vous fait?
Il y a beaucoup de versions qui existent de cette fantaisie. J'ai cherché simplement à avoir une version qui puisse se jouer sur un orgue qui est vraiment adéquat pour la musique de Mozart. Quoi. Il y a des versions très difficiles qui sont faites pour les orgues modernes et je trouve que Mozart est très peu servi par les sonorités des orgues modernes. Or, ici, bien entendu, techniquement, on ne peut pas faire exactement la même chose. Et sur ce genre d'instrument, il s'agit plus en fait d'avoir une pièce de piano dans laquelle on rajoute un petit peu de pédalier, etc., dans une vision très orchestrale de la musique. Et donc je me suis un peu inspiré des versions de Mozart à quatre mains. Et également d'une version, de deux versions pour piano qui sont autour de 1800 en fait.
Et on rajoutera quand même que la fantaisie d'origine de Mozart était pour un orgue mécanique, donc elle n'était pas forcément destinée à être jouée par un organiste.
Absolument.
La machine peut tout faire, l'homme pas forcément.
Absolument.
Thank you. Fantaisie pour un orgue mécanique, Köchel 608 de Mozart par Olivier Virvas, à l'orgue Caliné de Sainte-Croix-en-Plaine en Alsace. Il me reste à remercier Marie-Ange Remy et l'association des amis de l'orgue Caliné de Sainte-Croix-en-Plaine, les dernières nouvelles d'Alsace et bien sûr aussi l'équipe du Pays des Orgues, à la prise de son Michel Gassic et Valentin Azan-Zielinski, Taïssa Froidure, attachée de production, et Jean-Claude Mullet à la réalisation. On vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 8h pour la deuxième étape de notre randonnée musicale où nous visiterons Masevaux, un haut lieu de l'orgue en Alsace du Sud. Il y sera question des deux orgues Kern et Schwenkedel qui trônent dans son église Saint-Martin et qui seront joués par Jean-Baptiste Monod, mais pas seulement. Alors soyez à l'écoute. D'ici là, n'oubliez pas la réécoute et le podcast sur francemusique.fr. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.